الشرقيه عيونا روزيه حبك من قلبي يا وانتي عيني حبك من قلبي يا وانتي عيني بنت الشرقيه عيونا روزيه حبك من قلبي يا وانتي عيني
Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission « Une heure en Palestine », programmée chaque mercredi sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est BDS Provence qui anime l'émission. Je suis Vincent et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre page Facebook BDS Provence ou le site de l'association AMI www.assopalestine13.org. Merci à Sidi qui assure la technique. L'omerta sur la Palestine et Gaza est redevenue la manière de ne pas informer des médias mainstream. Ou bien il se dédouane en invitant des intervenants qui sont sur la très controversée et ridicule ligne du « Israël a le droit de se défendre ». La presse internationale qui est entrée à Damas est toujours interdite à Gaza pour identifier officiellement les crimes perpétrés par Netanyahou. Israël utilise encore son système de guerre préventive en bombardant la Syrie, plus de 400 impacts depuis la chute d'Al-Assad. Israël décide de peupler davantage le Golan, illégalement annexé depuis 1967. Les attentats ciblés contre les journalistes continuent. Un journaliste de la chaîne Qatari Al Jazeera, opérant à Gaza, a été tué, s'ajoutant à la centaine de journalistes palestiniens ciblés individuellement par des snipers. Ce meurtre a eu lieu lors de bombardements israéliens sur un camp de réfugiés palestiniens, encore couvert par le pitoyable slogan « Israël a le droit de se défendre ». Chaque semaine, les bilans macabres des victimes de l'armée israélienne et des milices de colons surarmés s'amplifient en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Le 29 novembre 2024, on décomptait 435 morts en Cisjordanie depuis le début de cette année. Face à ce bilan sanguinaire, le gouvernement de Netanyahou n'écoute que son esprit de vengeance. Il a rompu ses relations diplomatiques avec l'Irlande en raison de sa récente reconnaissance d'un État palestinien, mais aussi pour avoir soutenu les condamnations de la Cour internationale à l'égard de Netanyahou et de Gallant, son ministre de la Défense, qui déclara à l'époque, le 8 octobre, « Nous avons affaire à des animaux humains ». Ce sinistre personnage n'a été repris pour cette ignoble déclaration par aucune chancellerie occidentale. Face au silence médiatique global, heureusement, des web-radios ont pris le relais. Nous entendrons pour commencer des extraits du colloque « L'histoire, la justice et le droit, comprendre pour agir en Palestine » organisé par l'Institut Laboissy. D'abord, Inès Abdelrazek, co-directrice de l'Institut palestinien pour la diplomatie publique, organisation indépendante basée à Ramallah. Ensuite, ce sera Gilbert Ashkar, spécialiste des relations internationales et du Moyen-Orient, professeur à la School of Oriental and African Studies de Londres. Nous continuerons par un entretien de l'historienne Stéphanie Lat Abdallah, donné sur France Culture, qui n'est pas une radio mainstream, interrogée sur son concept du futuricide. En effet, pour la population gazaoui, cette conflictualité sans fin maintient toute une population dans l'incertitude, la suspension du temps qui empêche toute projection vers l'avenir. Maintenant, la parole à l'Institut Laboétie et à ses invités.
Alors, Inès, on va commencer avec vous. Depuis le début des bombardements, et malgré le fait que Israël empêche tout journaliste extérieur de rentrer à Gaza, et puis surtout qu'il tue des journalistes palestiniens délibérément, on est à plus de 100 aujourd'hui. Des images horribles nous parviennent sur les réseaux sociaux. On voit aussi des bulletins humains morbides. On parle de minimum 44 000 selon les chiffres officiels. The Lancet parle de plus de 100 000. Et on ne compte pas toutes les personnes qu'on pourrait retrouver sous les décombres. Donc je vous laisse imaginer l'horreur à laquelle nous sommes en train d'insister. Les conditions de vie et la solitude des Palestiniens à la fois à Gaza, où les massacres font rage, mais aussi en Cisjordanie, où la colonisation se produit à l'abri de toute couverture médiatique. Est-ce que vous pourriez nous faire, vous, un état des lieux des violations des droits des Palestiniens qui sont actuellement en cours?
Merci Yanis. Et merci à l'équipe de RIMA, parce que je voudrais dire que nous, les Palestiniens, en fait, aujourd'hui, quand on nous demande est-ce que ça va, personne ne va bien, en fait. Et je pense que Ahmad l'a bien dit. On est vraiment tous au bord du burn-out constamment. Et je pense que ce type de moment, en fait, c'est aussi la résistance. De pouvoir être ensemble, de pouvoir faire communauté, c'est hyper important. Moi, j'habite à Ramallah, donc je suis franco-palestinienne. Et c'est vrai que depuis octobre, il y a cette double réalité qui fait qu'on est aussi loin de Gaza que vous, en fait. Moi, je vois autant sur mes écrans et au téléphone avec les gens la situation à Gaza, puisqu'on nous nie le droit d'y aller, déjà depuis le blocus, qui ne date pas du 7 octobre, mais depuis 16 ans. Et donc ça, c'est important parce que je pense que c'est aussi l'objectif colonial d'Israël, c'est de nous casser. D'essayer de nous casser, de casser la volonté de résister à l'oppression, la volonté en fait qu'on ne se mobilise pas politiquement, qu'on ne milite pas, qu'on soit fatigué, épuisé, censuré, et que du coup, on arrête de lutter pour notre libération. Et donc ça, c'est, je pense, la réalité qui aujourd'hui transcende, à la fois Gaza, puisque les gens sont complètement rendus à l'état finalement inhumain de devoir courir derrière des camions pour avoir un morceau de pain. Et je pense que d'ailleurs, beaucoup de nos amis nous le répètent toujours, c'est pas nous en fait, c'est pas notre peuple, c'est dur de voir des images en fait de gens enlevés, enfin complètement dénués de toute leur dignité. Et donc cette situation aussi, c'est important de rappeler que, de prendre un peu de recul et justement de rappeler tout ce contexte qui fait que on est dans une continuité, malheureusement. On est dans une accélération, de la volonté d'élimination du peuple palestinien, que ce soit une élimination physique, mais aussi culturelle, sociale, géographique, qui n'a pas commencé le 7 octobre, qui n'a pas commencé en 1948, mais qui a aussi un legs colonial, et je pense que c'est là aussi où on est en France. Il faut toujours rappeler aussi la responsabilité coloniale de la France et du Royaume-Uni, encore plus, sur la situation qu'on a aujourd'hui. Donc, moi j'habite en Cisjordanie, donc je vais vous parler un petit peu de la situation là-bas, mais je pense que c'est important de rappeler que, en tout cas notamment dans les moments de l'histoire, et c'est là aussi où je pense que c'est important de résister à cette fabrique du consentement au génocide, ne jamais commencer par le 7 octobre 2023. Gaza était sous blocus depuis 16 ans. Gaza est occupée depuis 1967, bien avant que le Hamas existe. La Palestine est occupée et colonisée bien avant que les groupes de résistance ou les groupes politiques palestiniens existent. Donc voilà, ça c'est important de le comprendre. Et la logique reste la même. C'est-à-dire que la volonté aujourd'hui d'Israël, c'est de grignoter le territoire, coloniser, annexer toute l'entièreté du territoire. Donc ça a déjà été établi qu'Israël contrôle l'entièreté du territoire, du Jourdain à la mer, par différents mécanismes. Et donc aujourd'hui, quand on parle de génocide, le génocide, l'apartheid, l'occupation militaire sont en fait tous différents systèmes, différentes méthodes, différentes manières de porter au bout le projet colonial et la colonisation. Et donc ça, c'est important parce que souvent, je sais aussi que les gens se perdent. Oui, mais alors, est-ce que c'est de l'apartheid? Est-ce que c'est de la colonisation? Est-ce que c'est de l'occupation? C'est tout ça à la fois. Et justement, d'une manière plus ou moins progressive. C'est-à-dire que le nettoyage ethnique, essayer de faire partir les personnes, les tuer ou les isoler et les ghettoiser, Tout ça fait partie d'un continuum qui aujourd'hui, finalement, nous habite dans notre intimité. Donc moi, aujourd'hui à Ramallah, j'habite dans finalement une petite ville de 100 000 personnes où on est entouré donc de checkpoints et de colonies. Pour aller dans n'importe quelle autre ville de Cisjordanie, on a besoin de passer plusieurs checkpoints militaires, des routes ségrégées. Et en gros, au lieu de faire 10 km pour aller à Jérusalem, sachant que j'ai le privilège, moi, de pouvoir aller à Jérusalem, contrairement à mes amis de Cisjordanie, parce que j'ai un passeport français, ça met 2 heures et 80 km au lieu de 10 km. Et une demi-heure, voilà, si vous habitez à côté. Donc cette réalité, on y est. Et le problème, c'est que du coup, vu que tous les yeux étaient rivés sur Gaza, la situation actuelle en Cisjordanie s'accélère et dramatique, qui fait qu'on est vraiment ghettoisé dans un nombre limité de petits îlots, de petits ghettos qui sont de fait complètement contrôlés par Israël. Alors, rappelons que l'autorité palestinienne contrôle l'intérieur des centres urbains. On parle d'à peu près 10% de la Cisjordanie. Du coup, on est vraiment entouré de colons qui sont armés, de l'armée qui contrôle toutes les entrées et les sorties et qui fait des raids réguliers dans les différentes villes. Et donc, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que par ces différentes méthodes, encore une fois, Israël a pour volonté d'avancer la colonisation de peuplement, donc remplacer la population palestinienne par la population juive, et Gaza faisait partie de ce même projet d'annexion. Sauf que pour Gaza, je pense que le projet qui a commencé déjà il y a plusieurs années était d'isoler Gaza, c'est-à-dire que d'exclure Gaza, de faire en sorte que Gaza devienne une certaine exception, un territoire complètement coupé, marginalisé, dont on parlerait en soi. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et c'est pour ça que notre plus grand combat aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi le rappeler, c'est de se battre pour notre unité. C'est un combat de tous les jours d'essayer de rappeler que c'est pas la situation à Gaza, c'est pas la situation en Cisjordanie, c'est pas Israël contre le Hamas, non. C'est le projet colonial israélien contre les Palestiniens, contre la Palestine, et y compris le droit au retour des réfugiés. Moi, ma famille, comme celle de Rima, ont été expulsées en 1948. Sauf que moi, je suis rentrée maintenant sur mon passeport français et mon mari, il a le passeport israélien. Donc, même dans mon mariage et dans toute ma situation familiale, toute la famille de mon père n'a jamais pu rentrer parce qu'ils sont réfugiés au Liban. Mon mari, ayant la citoyenneté israélienne, il arrive, lui, à être dans le territoire de là où, finalement, il a réussi à survivre à la Nakba avec... Enfin, sa famille a survécu à la Nakba. Et donc, tout ça fait qu'on est dans une même réalité où ça conditionne, finalement, n'importe quelle relation humaine, familiale, structurelle dans laquelle on vit. Et c'est une question palestinienne. Donc, aujourd'hui, quand on essaie de comprendre ce qui se passe, il faut vraiment éviter de... surtout politiquement et pour trouver des solutions... Il faut vraiment essayer de comprendre la chose de manière unifiée, que nous sommes un peuple palestinien qui est en Palestine et en exil. D'ailleurs, à peu près la moitié en Palestine et la moitié en exil. Nous luttons pour nos droits sur toute la terre, y compris parce que les Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne sont ghettoisés.
Ouais, je voulais y revenir avec toi, c'est qu'il faut aussi aller contre cette propagande qui est que les Arabes qui vivent, les Palestiniens qui vivent en Israël et qui ont la citoyenneté vivent très bien, alors qu'en fait non, c'est des citoyens de seconde zone, même avec la citoyenneté israélienne.
Oui, et ça fait partie de la propagande israélienne, de dire justement, voilà, les Arabes, bah, ils sont juges, ils sont docteurs. Alors certes, il y a des Palestiniens avec la citoyenneté israélienne qui sont juges et docteurs, sauf qu'on reste dans une société coloniale où, ne serait-ce que pour accéder à la terre, par exemple, accéder à la propriété... déménager, les Palestiniens finalement composent 20% à peu près de la société israélienne et pourtant ils sont dans 3% du territoire d'Israël aujourd'hui parce qu'ils ont été ghettoisés, parce qu'à travers les différentes politiques et pratiques d'isolement et de ghettoisation on en est arrivé là et donc c'est des citoyens de seconde zone et ce qui fait que aussi quelque part, encore une fois on est dans une société extrêmement fragmentée, chacun a une carte d'identité différente. Chacun, en fait, se bat au quotidien. À Gaza, on se bat pour avoir du pain sur la table, pouvoir ne serait-ce que passer le checkpoint aujourd'hui pour sortir. En Cisjordanie, on se bat pour avoir un permis pour aller travailler de l'autre côté du mur.
Et être moins bien payé.
et être moins bien payé, évidemment. Parce que Israël a évidemment colonisé aussi l'économie, a détruit l'économie palestinienne pour aussi avoir une main-d'œuvre pas chère palestinienne. Donc, de fait que tout ça, en créant justement des réalités personnelles assez particulières pour chacun, a réussi aussi à casser le tissu social et l'unité palestinienne, qui est aujourd'hui notre principal combat pour qu'on puisse aussi trouver des solutions à cette situation. Et je terminerai, en fait, je conclurai pour dire que, du coup, pour revenir aussi à ce que vous pouvez faire, encore une fois, c'est pas simplement parce que vous avez de l'empathie ou vous croyez à l'autodétermination du peuple palestinien et vraiment, enfin, la solidarité, je pense, c'est ce qui fait tenir les Palestiniens vraiment. Donc ça, c'est la solidarité active, que ce soit à Gaza ou ailleurs. Clairement, c'est très important parce qu'on voit le poids que ça a aussi pour faire bouger les lignes. Mais politiquement, je dirais que ce qui est important de comprendre, c'est que Israël est en train de façonner un modèle du monde, en fait. Un ordre international qui fait complètement fi de n'importe quelle loi internationale, n'importe quel droit international, n'importe quel ordre universel, n'importe quel droit universel. Et deux, il y a une israélénisation du monde, entre guillemets, dans le sens où Israël exporte son modèle à l'étranger, y compris en France, en Europe, s'allie avec des forces fascistes pour justement défendre son modèle ethno-national, un modèle finalement raciste, une constitution, des lois constitutionnelles qui sont ethno-nationales et qui promeut à l'étranger des technologies, des politiques, des pratiques, y compris en France, qui sont justement issues de ce système colonial, de ce système fasciste. Et donc ça, c'est vraiment important, je pense, de le souligner aussi. Merci beaucoup.
Merci à toi, Inès. Alors à présent, je me tourne vers Gilbert Achkar. Bonjour. Alors, vous, on va essayer de comprendre avec vous les souffrances endurées par le peuple palestinien, qui, comme on l'a dit, comme Inès aussi l'a très bien expliqué, sont le fait d'une histoire coloniale qui se poursuit et qui s'intensifie de manière brutale et violente aujourd'hui, puisqu'on est face à un génocide à Gaza et à une colonisation de plus en plus violente en Cisjordanie. Alors j'ai plusieurs questions auxquelles vous allez tenter de répondre. Est-ce que vous pourriez nous retracer les principales étapes de cette histoire coloniale? Est-ce que vous pourriez également nous expliquer quelles sont les conditions politiques qui rendent possible cette colonisation et le génocide en cours? Car la spécificité de la colonisation d'Israël, c'est qu'on en parle très peu au quotidien. C'est très peu documenté, on le voit très peu, surtout ici en France. Et puis aussi, on a tendance, le narratif qui est beaucoup tenu, c'est de dire que aujourd'hui, ce que vivent les Palestiniens, c'est parce qu'on a Netanyahou au pouvoir, c'est parce qu'on a Ben-Gvir et Smotrich, qu'on a cette extrême droite au pouvoir. Et ça, je pense que c'est important aussi de nous expliquer que c'est Netanyahou et les ministres aujourd'hui d'extrême droite sont juste la continuité de cette histoire coloniale.
Bien, merci. Et je remercie Rima Hassan et son équipe, ainsi que l'Institut La Boétie pour cette invitation et l'organisation de ce colloque. Vous m'avez demandé de résumer un peu en quelques minutes plus d'un siècle d'histoire. Bon, c'est un exercice périlleux, mais je vais m'y livrer quand même. En commençant par le commencement, il faut dire qu'au départ, il y a l'antisémitisme, mais le vrai, pas la caricature qui est faite de ce terme aujourd'hui pour qualifier toute critique du gouvernement israélien. Et c'est un antisémitisme qui n'était pas au Moyen-Orient, mais en Europe. Et c'est là qu'est née l'idée sioniste portée par le fondateur du mouvement sioniste, Theodor Herzl. Alors, il faut expliquer que la poussée d'antisémitisme à la fin du 19e siècle, sur fond de crise économique et sur fond d'immigration des Juifs d'Europe orientale vers l'Europe occidentale, est l'équivalent de ce que nous avons aujourd'hui avec les crises économiques et l'immigration majoritairement musulmane en Europe, qui entraîne une montée de l'islamophobie. Et l'islamophobie est la forme que prend aujourd'hui le racisme, la xénophobie. Et donc, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, la principale cible de l'extrême droite européenne, ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont plus les juifs, ce sont les musulmans. C'est l'islamophobie qui domine comme idéologie. Enfin, donc, vous avez ce racisme anti-juif, cet antisémitisme qui se développe à la fin du XIXe siècle et qui entraîne le personnage qui va être le fondateur du mouvement sioniste, Theodor Herzl, à écrire un ouvrage qui s'appelle « L'État des Juifs » dans lequel il développe un projet colonial. L'idée, c'est que ces juifs d'Europe orientale qui viennent en Europe occidentale et qui créent ou qui suscitent cette montée de racisme puissent être envoyés vers un autre territoire où il y aurait un État des juifs. Et alors cela s'inscrit, puisqu'on est à la fin du XIXe siècle, dans un projet colonial, dans le cadre de l'entreprise coloniale qui était tout à fait dominante à l'époque. Et d'ailleurs, Herzl ne s'en cache pas, il utilise des termes, une terminologie qui est typiquement coloniale, y compris le terme. Le terme qu'il dit, bon, nous allons construire nos colonies, et un avant-poste de la civilisation au sein de la barbarie, n'est-ce pas? Bon, on connaît tout ce type de discours. Le mouvement sioniste va donc essayer d'obtenir un feu vert d'une des puissances coloniales du moment. Il va explorer des possibilités en Amérique latine, en Afrique et ailleurs. Et finalement, ce feu vert va être octroyé par la Grande-Bretagne en 1917. C'est la fameuse déclaration Balfour qui donne le feu vert au mouvement sioniste pour la création d'un, entre guillemets, foyer national juif en Palestine. Ce que l'on dit moins, c'est que le seul membre juif du gouvernement britannique de l'époque, donc de ce gouvernement qui fait cette déclaration, est le seul à s'y être opposé et qu'il a qualifié, très justement d'ailleurs, cette déclaration d'antisémite. Il a clarifié cette déclaration d'antisémite tout simplement parce qu'elle représente les choses comme si les juifs du monde appartiennent à une autre nation et doivent se retrouver dans un territoire qui s'appelle la Palestine. Donc ils ne sont pas français ou britanniques ou autre chose, ils sont juifs et ils sont juifs comme nation à part. D'où cette qualification d'antisémitisme par Montaigu, c'est son nom, qui était l'unique membre juif de ce cabinet. Bon, ce projet, s'il a pu prendre véritablement corps, il faut le dire aussi, c'est à cause l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne, c'est à cause de la Shoah et de toutes ces conditions qui ont été créées, qui ont fait que finalement vous avez eu une masse de gens suffisante en Palestine pour revendiquer un État dans les conditions coloniales de l'époque. C'est les Nations Unies en 1947 qui vont avaliser cette situation-là, à un moment où la population juive en Palestine était un tiers du total, et un tiers du total d'immigration relativement récente, c'est-à-dire au cours des 15 dernières années, eh bien, cette population se voit octroyer 55% du territoire par des Nations Unies qui, à l'époque, étaient une cinquantaine et quelques d'États dominés complètement par les États du Nord. Le Sud mondial n'y était pas. Il faut également se rappeler cela quand on vous dit résolution de l'ONU. Il faut savoir quel type d'ONU existait à l'époque. Bon, vous connaissez le reste d'histoire. La Nakba en 1948, c'est-à-dire l'expansion du territoire pris par le mouvement sioniste à 78% de la Palestine, l'expulsion de 80% de la population palestinienne qui avait sur ce territoire. Et tout cela se fait dans le contexte d'une représentation par le mouvement sioniste de tout cela comme étant une sorte de nouvelle étape de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, c'est une continuation de la lutte contre le nazisme, les Arabes, et les Palestiniens en particulier, étant nazéifiés. Et vous avez une nazification qui est un instrument idéologique, vous voyez que ce n'est pas nouveau du tout, cet instrument idéologique utilisé par le mouvement sioniste qui consiste à nazifier l'adversaire, le représenter comme en continuant le nazisme.
Je vous coupe là-dessus juste pour dire que c'est aussi une des propagandes qui est utilisée par Netanyahou. On l'a tous vu, il n'arrête pas de dire que Hitler ne voulait pas brûler les Juifs et que c'est le moufti de Jérusalem, donc les Palestiniens, qui sont allés voir Hitler et qui a dit « brûlez-les parce que sinon ils vont venir chez nous ». Voilà, et ça c'est une fake news, bien évidemment.
Oui, mais on le voit, disons, l'apogée de ce genre de discours, c'est aujourd'hui. C'est depuis le génocide, depuis le 7 octobre 2023, qui est immédiatement qualifié du côté israélien comme pire massacre de juifs depuis la Shoah, n'est-ce pas ? Et vous avez eu ici Emmanuel Macron, il y a quelques mois, qui explique que c'est le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Donc cette représentation-là, c'est une représentation qui consiste à placer ce qui s'est passé le 7 octobre dans un continuum historique avec le nazisme et la Shoah. Comme si les habitants de Gaza ou les Palestiniens n'avaient d'autres raisons, n'est-ce pas, d'en arriver à des choses comme le 7 octobre, que la haine des Juifs, qu'une sorte d'haine irrationnelle des Juifs, ou un antisémitisme ou autre chose. Alors que, évidemment, une autre vision de cela, c'est de placer ce qui s'est passé le 7 octobre dans l'histoire des luttes anticoloniales. Et si on le fait, là on verra que, il y a eu plusieurs types de 7 octobre dans l'histoire des luttes anticoloniales. Il y a eu en Algérie, en Angola et ailleurs, il y a eu des actes qui parfois ont été, ont dépassé la lutte légitime pour des massacres qui sont assez horribles, mais qui étaient, des violences réactives à une violence bien plus forte et bien plus meurtrière et bien plus destructrice qui est celle du pouvoir colonial. Et toute l'histoire coloniale est émaillée d'opérations de la genre. Donc, on a aujourd'hui une utilisation absolument intensive de ce discours sous le thème du nouvel antisémitisme. Alors, c'est quoi le nouvel antisémitisme ? Ce serait la critique de l'État d'Israël, qui devient un nouvel antisémitisme, dont le terme est complètement galvaudé, le terme antisémitisme, comme je crois que Clémence Guettet l'a justement souligné. Et tout cela pour couvrir ce qui est bien évidemment un génocide. Un génocide aujourd'hui, je crois que la démonstration même juridique du fait que c'est un génocide est absolument claire, elle est absolument irréfutable. Le document d'Amnesty International a été cité et il faut le lire, je conseille à tout le monde de le lire, il existe en traduction française sur leur site. Il y a même tout récemment un document d'un chercheur israélien qui est un ancien membre des forces armées israéliennes et qui est maître de conférences en histoire en Israël, qui s'appelle Li Mordechai, qui fait également une description détaillée de tous ces faits qui constituent ce qui se déroule sous nos yeux en génocide. Et c'est d'autant plus grave que, vous voyez, cette nazification aujourd'hui du Hamas, des Arabes, des musulmans, des Palestiniens, elle se fait de la part d'un gouvernement qui est une coalition de néo-fascistes et de néo-nazis. Parce que c'est ça ce qu'est le gouvernement israélien aujourd'hui. Une coalition de néo-fascistes, les néo-fascistes du Likoud, et de néo-nazis, les Ben-Gvir, Smotrich, etc. Même un journal comme Haaretz les a qualifiés de néo-nazis. Donc vous avez un gouvernement d'extrême droite qui commet un génocide qui se fait avec la participation directe des États-Unis. C'est même la première guerre véritablement conjointe qu'Israël mène avec les États-Unis, avec donc aussi un soutien occidental dont on a vu, y compris la France, qui avalise donc ce discours. Et le résultat de tout cela, c'est que je vais le dire, il faut le dire, et il faut retourner ce type d'accusation vers ce qui est véritable. Ce n'est pas, à ceux qui nous accusent de nouvel antisémitisme, il faut répondre par la vérité réelle, c'est un nouveau négationnisme auquel nous assistons. Tout génocide crée... Chaque génocide a créé, de façon naturelle, un négationnisme.
Merci à l'Institut La Boétie et nous accueillons l'historienne Stéphanie Latte-Abdallah dans un replay de son entretien sur France Culture le 24 octobre dernier.
Il faudrait jusqu'en 2040 pour reconstruire toutes les maisons qui ont été détruites par les bombardements et les offensives terrestres d'Israël dans le territoire. Face à la destruction des logements, des lieux de culte et de patrimoine, face au déplacement de 90% des Gazaouis depuis un an, est-il encore possible d'envisager un avenir à Gaza? Peut-on alors parler de futuricide? Pour y répondre, pour tenter de décortiquer ce terme, une invitée ce soir, Stéphanie Latte-Abdallah. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, politique, chercheuse au CNRS. Vous êtes l'autrice de cet ouvrage intitulé « Mort en guerre, détention des corps et figures du martyr en Palestine », un ouvrage qui est paru aux éditions Cartala en 2022. Et vous êtes à l'origine d'une tribune qui vient de paraître dans le journal Le Monde, une tribune dénonçant un futuricide des Gazaouis opéré par l'armée et le gouvernement israélien. Merci d'être l'invité ce soir de Questions du Soir. Merci aussi d'être venu malgré la maladie qui vous prend ce soir. La première question est toute simple et rejoint d'ailleurs le débat que nous avions à l'instant avec les deux chercheurs, la question de la définition. Pourquoi forger un nouveau terme, un néologisme, celui de futuricide ?
Parce qu'il m'a semblé que finalement ce qui était visé, au-delà de toutes les destructions dont qu'on connaît et de toutes les... Tout ce qui a déjà été dit, hein, c'est-à-dire que on a parlé de scolasticide, c'était déjà Karman Aboulsi qui en parlait suite à la guerre de 2008-2009, donc c'est déjà ancien. La guerre de 2014 conduite à Gaza a fait émerger, en tout cas dans le contexte de Gaza, les termes de d'urbicide et également de sociocide. Évidemment, ce qui est en débat maintenant, c'est cette question du génocide, qui lui, en revanche, relève d'une définition juridique. Donc on a tous les éléments pour penser que oui, il s'agit d'un génocide, mais évidemment ce sera...
En tout cas, il y a débat sur la question, disons.
Il y a débat, et c'est la justice internationale qui en est saisie et qui en débattra pendant, on pense, au moins une décennie avant d'arriver à une conclusion. Mm-hmm. Pour l'instant, elle s'est limitée à demander des mesures conservatoires en janvier, puis en mars, puis en mai, pour éviter, pour prévenir tout risque de génocide. Ces mesures n'ont pas du tout été appliquées et les mêmes méthodes de guerre sont employées, ce qui laisse vraiment penser qu'on est face à un génocide. Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que finalement, l'ampleur des destructions, le fait de toucher les universités, de toucher les hôpitaux, tout ce qui finalement permet un avenir possible dans cette bande de Gaza. On parle aussi d'écocide, c'est-à-dire que oui, effectivement, comme vous le disiez, il faudrait au moins 14 ou 15 ans pour pouvoir ne serait-ce que déblayer les gravats, d'une part. D'autre part, on a 360 000 tonnes de déchets qui se sont accumulés dans la bande de Gaza, sans oublier la toxicité de la guerre. Le sol de Gaza était déjà très toxique après la guerre de 2014. Il l'est, on ne peut plus, puisque les bombes constituent une toxicité, évidemment. Les bombes explosées et les bombes non explosées qui restent dans Gaza. Et donc tout ça m'amène à penser que finalement, ce qui est visé, c'est non seulement le présent, mais c'est l'avenir possible à Gaza. Et là, d'autant plus aujourd'hui, on le voit d'autant plus clairement aujourd'hui, après un an de cette guerre, qu'on voit très bien que ce qui se profile, c'est à la fois réoccupation, voire recolonisation et expulsion. Donc expulsion qui était visée dès le départ, mais dont on voit plus clairement les contours, en tout cas aujourd'hui, depuis 10 jours, en ce qui concerne le nord de la bande de Gaza. Donc tout ça relève d'une impossibilité de penser un avenir. Et je rajouterai un élément, c'est-à-dire que futuricide, c'est aussi laisser penser aux gens qui n'ont pas d'avenir à Gaza, c'est-à-dire projeter un avenir forcément dystopique pour les personnes, et donc d'une certaine manière gouvernementaliser leur avenir en leur projetant un avenir dystopique comme seul horizon d'attente possible. Donc tous ces éléments me laissent à penser qu'il s'agit aussi d'un futuricide.
deux questions qui me viennent en vous écoutant, Stéphanie Latte-Abdallah. La première, est-ce que ce n'est pas dans la fonction de toute attaque militaire, de toute guerre, même de supprimer l'idée, que l'ennemi puisse avoir un avenir possible ? Est-ce que toute guerre ne contient pas cela en elle-même ?
Alors, plus ou moins. Toute guerre ne vise pas forcément expulser une population. Toute guerre n'est pas censée être conduite contre une population civile et contre les infrastructures civiles. Ça fait quand même effectivement des années que les guerres se livrent contre les civils. Mmh. Mais là, on est quand même dans un cas particulièrement aigu de cette guerre qui, depuis le départ, est menée contre les civils, la population civile, et contre toute possibilité d'avenir dans la zone, et aussi contre tout futur politique. Parce que, en fait, ce futuricide, il concerne évidemment en premier lieu les Gazaouis et au-delà les Palestiniens, parce qu'on pourrait parler de la manière dont les modalités de la guerre et de la gestion de la conflictualité s'homogénéisent à Gaza et en Cisjordanie, on pourra en parler. Mais quelque part, elle questionne aussi la manière dont le gouvernement israélien actuel envisage l'avenir, en fait. Quel avenir envisage-t-il ? On voit bien que, en tout cas, il n'envisage pas. Il y a aussi une dimension proprement peut-être. Il y a des chercheurs israéliens, notamment un économiste, Shir Ever, qui parle de suicide en même temps, qui dit un gouvernement qui commet un génocide avance vers un suicide. C'est ce qu'il dit, lui, en tant que chercheur israélien.
Encore une fois, je précise que la notion de génocide fait débat sur cette question.
Enfin, c'est ce qu'il dit. Là, je reprends ses propos. Donc, Shir Ever, un économiste israélien qui a quitté le pays, et qui dit que un gouvernement qui commet un génocide est sujet à, quelque part, se suicide, ou en tout cas, est dans un processus suicidaire. Mais au-delà de ça, qui est sa propre analyse, mmh, qui n'est pas forcément la mienne. Au-delà de ça, on peut quand même légitimement se demander quel avenir pense pouvoir construire un gouvernement qui détruit systématiquement toute possibilité de dialogue et de personnes avec qui possiblement dialoguer côté palestinien d'un côté, et puis même au-delà, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ces méthodes de guerre sont, de manière un peu différente, mais assez sensiblement similaires aussi, sont aujourd'hui appliqués au Liban.
Alors, vous avez commencé à répondre en partie à ma seconde question, la question de l'intentionnalité. Est-ce que ce futuricide, il est théorisé, ou est-ce que des éléments nous laissent penser qu'il peut être théorisé aujourd'hui par le gouvernement d'Israël ?
Écoutez, ce qu'on voit théorisé, en tout cas, aujourd'hui de plus en plus, c'est une manière de se projeter, donc, soit dans une guerre sans fin, ok, ça on le voit, mais également dans une forme de gestion de ces deux espaces, Gaza et la Cisjordanie. Et cette forme de gestion, elle inclut déjà une sorte de ce que j'appelle une gestion infrastructurelle militarisée, c'est-à-dire on voit qu'a été mis en place donc ces deux corridors, le corridor de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux et qui a été étendu, qui fait aujourd'hui 8 km de large, d'après ce qu'on sait, dans lequel des infrastructures durables sont mises en place pour gérer les mobilités entre le nord et le sud de la bande de Gaza, avec un terminal de passage qui se profile. Aujourd'hui, on a deux checkpoints. Le corridor de Philadelphie également au sud, à Rafah. L'extension de la zone, le buffer zone, qui enserre toute la bande
de
Gaza.
Les zones tampons.
Les zones tampons qui enserrent toute la bande de Gaza sur un kilomètre. Et donc le contrôle de toutes les entrées et sorties de la bande de Gaza. Et on voit que finalement, ce profil donc cette gestion à long terme. Dans le nord de la bande de Gaza, qui est aujourd'hui, maintenant, sujet depuis 10 jours à une offensive extrêmement violente, selon un plan qui a été établi en août, en tout cas affirmé en août, qu'on appelle le plan des généraux. Ce plan qui vise donc à assiéger complètement le nord de la bande de Gaza, à demander à la population de quitter le nord, ce qui a été fait il y a une semaine, et en disant ceux qui ne partent pas seront considérés comme terroristes et seront susceptibles d'être éliminés. Donc le projet là, c'est affamer et exterminer. Je reprends des mots qui sont employés, ce ne sont pas mes mots. Donc ce processus vise, on le voit bien, à pousser toute une partie de la population vers le sud, sachant que le sud est déjà très très engorgé.
Très très trop densément peuplé.
Très densément peuplé. Par ailleurs, on sait que depuis le début de ce conflit, il y a cette idée d'expulser en fait les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte, en fait, dans le Sinaï. Il y a des infrastructures qui ont été mises en place dans le Sinaï pour accueillir des personnes de manière assez très sécurisée, très fermée. Ça s'est heurté évidemment au refus du président égyptien Sissi, qui refuse cette expulsion, mais enfin c'est toujours une perspective possible, et on voit aujourd'hui que dans le nord de la bande de Gaza, il y a de plus en plus de mouvements israéliens qui sont pour une recolonisation, et il y a même, semble-t-il, quelques communautés qui se seraient déjà positionnées à certains endroits du nord de la bande de Gaza. Et ça, c'est évidemment porté par les ministres messianiques, Ben-Gvir et Smotrich, qui, eux, sont vraiment en faveur d'un mouvement de recolonisation de la bande de Gaza.
Donc, si je vous suis bien, l'absence d'avenir, l'absence de futur pour cette bande qu'est Gaza, c'est d'abord et avant tout une absence d'avenir politique bloqué consciemment par le gouvernement israélien.
Ah, il y a un refus total du politique, mais qui n'est pas nouveau en fait. Hein. Depuis la fin de la seconde intifada, les gouvernements israéliens successifs ne cherchent plus à résoudre la question par des moyens politiques. Il y a différents types de moyens qui ont été mis en place, dont cette gestion infrastructurelle, notamment qui a été mise en place en Cisjordanie, la construction de ce qui a été appelé des cellules territoriales par l'armée, et qui ensuite a perduré en termes de gestion sur des microzones. Et donc cette question de fin du politique, si on peut dire, elle n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, et le futuricide, ça n'est pas juste le refus du politique, ça va bien au-delà, sur un effacement, en fait, un effacement. On pourrait parler de mémoricide, on pourrait parler... Mais, quelque part, effacer le passé, effacer la présence des personnes dans des lieux, leur présence par l'architecture, leur présence évidemment physique en tant qu'être humain, mais la présence des cimetières, les cimetières aussi sont visés, etc. C'est effectivement viser toute possibilité de revenir dans cet espace ou d'y perdurer à court terme. Alors après, c'est une intention de futuricide, comme le génocide est caractérisé par la question de l'intention. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'au final... Et on peut garder un peu d'espoir, il n'y aura pas une possibilité, peut-être, pour les gens, en tout cas on leur souhaite, de vivre dans cette bande de Gaza. Hein. Mais en tout cas, il est clair que côté israélien, il n'a pas cette idée. Et je finirai, parce qu'on parle souvent des ministres messianiques, Ben-Gvir et Smotrich, qui sont pour la recolonisation de Gaza, etc., et l'annexion de la Cisjordanie. Mais Benjamin Netanyahou lui-même a présenté un plan, il y a quelque temps déjà, qu'il a appelé Gaza 2035. Donc lui, un plan, pour le coup, futuriste. Hein. Qui ferait de Gaza une sorte de Dubaï, avec cette idée très ancienne, hein, de la paix économique, hein, comme on l'a vu un peu avec le plan Trump, hein, cette idée que finalement, construisant des zones franches, ou en construisant une sorte de possibilités économiques, eh bien, les Palestiniens abandonneraient toute volonté d'autonomie et d'autodétermination. Et donc, ce plan connecterait, par exemple, Neom, en Arabie Saoudite, mm-hmm. par un train.
Neom, c'est la grande cité futuriste d'Arabie Saoudite qui devrait voir le jour lors de la prochaine décennie.
Voilà, tout à fait. Et donc, il remettrait en fonction le fameux train du Hejaz et connecterait donc cette cité futuriste à une sorte de Gaza futuriste, évidemment vidée de la plupart de ses habitants gazaouis, avec toute une nouvelle population qui serait à même, et ceux qui accepteraient ce nouvel ordre, on va dire. Donc c'est un plan futuriste, mais c'est un plan qui a été quand même posé, écrit aussi.
S'agissant de l'avenir de Gaza, qu'est-ce que nous enseigne l'expérience cisjordanienne, notamment en termes de dispositifs de contrôle? Je pense aux dispositifs territoriaux que vous avez décrits et à l'ensemble des dispositifs non territoriaux qu'il faut articuler avec les premiers.
Tout à fait, oui. Ce qu'on peut voir, c'est vraiment à partir de 2005, quand il y a ce retrait unilatéral israélien de la bande de Gaza, de l'intérieur de la bande de Gaza, on voit, donc c'est ça correspond avec la fin de la seconde intifada, on voit finalement des devenirs séparés se mettre en place. Donc Gaza, en soi, constitue une de ces cellules territoriales, mais à l'intérieur de Gaza, assiégée, on peut dire qu'il y a une certaine unité territoriale, ce qui n'est pas du tout le cas de la Cisjordanie. La Cisjordanie est morcelée donc par des dispositifs territoriaux et non territoriaux. Donc les dispositifs territoriaux, c'est un peu les plus connus, hein, mais au-delà de ce mur dit de séparation, c'est surtout tous les checkpoints fixes ou volants qui sont à l'intérieur de la Cisjordanie, hein, du coup, qui constituent ces micro-zones, en fait, qui peuvent être ouvertes ou fermées en fonction de la situation sécuritaire. Et puis, des dispositifs non territoriaux, sur lesquels j'ai particulièrement travaillé, qui sont à la fois ce que j'ai appelé une toile carcérale, c'est-à-dire une massification des incarcérations d'un côté, et un système de permis qui permet de gérer les mobilités entre ces différents espaces. La bande de Gaza, paradoxalement, pendant cette période, elle n'est pas morcelée à l'intérieur, d'une part, et elle ne fait pas l'objet non plus de cette incarcération massive. Comme en Cisjordanie. Les détenus gazaouis ne représentaient avant le 7 octobre que 4% des détenus palestiniens, puisque effectivement, ils ne pouvaient être arrêtés que lors d'incursions militaires et ou sinon aux frontières.
Il faut redire ce chiffre parce qu'il est stupéfiant. Au 6 octobre 2023, donc la veille du 7, les Gazaouis ne représentaient que 4% des prisonniers palestiniens.
Oui, aujourd'hui.
Tous les autres, donc, logiquement, venaient de Cisjordanie.
Et de Jérusalem-Est.
Et Jérusalem-Est.
Oui. Et un petit peu aussi d'Israël en soi, c'est-à-dire de Palestiniens d'Israël.
Et donc, aujourd'hui, quelles sont les proportions?
Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'on manque de chiffres fiables, puisqu'on n'a pas les chiffres sur le nombre de Gazaouis qui sont incarcérés. Mais par contre, on évalue sur les plus de 10 000 détenus, donc le chiffre a été multiplié par deux, hein, depuis le 7 octobre, en général. Mais en fait, on serait plutôt sans doute autour de 14-15 000, si on compte les Gazaouis, qui ne sont pas complètement quantifiés, mais donc il représenterait au moins 30% aujourd'hui des détenus. Le problème, c'est qu'on n'a que les chiffres qui sont donnés par l'administration civile pénitentiaire. Or, la plupart des Gazaouis sont détenus par l'armée dans des camps militaires. Donc là, on retourne à des formes d'arrestations qui rappellent, qui sont vraiment des rafles massives d'hommes entre 18 et 45 ans. Beaucoup disparaissent. On ne connaît pas, en fait, certains sont tués, etc. Donc là, et c'est pour ça aussi que les Gazaouis et les Palestiniens parlent de nouvelles Nakba, c'est qu'on revient à des pratiques en fait extrêmement violentes qu'on a pu voir.
Nakba, je rappelle juste d'un mot que c'est la catastrophe datant de 1948 qui avait incité, obligé, contraint entre 700 000 et 900 000 Palestiniens à migrer, à se déplacer.
Oui, autour de 900 000, en tout cas les chiffres des organismes humanitaires sur lesquels j'ai travaillé donnent 900-940 000 réfugiés, dont une grande partie d'ailleurs, une partie sont venus d'ailleurs dans la bande de Gaza. La bande de Gaza étant donc du coup constituée de 70% de personnes issues de familles réfugiées en 48.
Je voudrais peut-être insister sur un autre dispositif non territorial, celui des permis, qui est absolument majeur en Cisjordanie. Là encore, en quoi il nous permet d'éclairer ce que pourrait être l'avenir ou le semblant d'avenir pour Gaza ?
Bien, des permis justement pour se déplacer, pour passer d'un lieu à un autre. Donc on peut imaginer, d'après ce qu'on voit là, qu'il y aurait des systèmes déjà de permis pour aller du nord au sud de la bande de Gaza. On peut imaginer plus de micro-zones, d'ailleurs, on ne sait pas. Évidemment, il y a les permis pour sortir de Gaza, mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Sauf qu'avant, on avait quand même une possibilité de sortie par Rafah, par l'Égypte, donc qui, quelque part, échappait au système de permis israélien. Aujourd'hui, on n'a plus ça, depuis que Rafah a été occupé en mai, hein, et que le corridor de Philadelphie l'est également, et lui aussi, hein, qui s'étend, qui se structure. En fait, on voit des infrastructures durables en fait se mettre en place. C'est ça qui fait envisager ce type d'avenir. Alors concernant la Cisjordanie, les Cisjordaniens, il y a plus de 100 types de permis différents qui peuvent être donnés. Donc ça peut être des permis, par exemple, pour aller se rendre à Jérusalem, pour aller travailler dans les colonies, pour se rendre à Gaza justement, pour voyager à l'étranger, puisque vous êtes obligé du coup de passer par la Jordanie quand vous êtes jordanien pour voyager, et des permis de durée de temps différents pour aller se faire soigner à l'hôpital à Jérusalem où sont la plupart des hôpitaux palestiniens. En tout cas, beaucoup d'hôpitaux de grande qualité, etc. Et donc, on peut tout à fait voir se profiler, disons, des formes qui ressemblent. En tout cas, il y a une construction infrastructurelle assez importante à Gaza qui peut aller de pair avec une forme de colonisation, avec des formes de gestion de la population restante par ce type de choses. Mais ce qu'il faut dire aussi également, c'est que l'homogénéisation se fait un peu des deux côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des méthodes de guerre similaires qui sont appliquées en Cisjordanie, celles appliquées à Gaza. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Katz, a tweeté fin août un tweet qui dit il faut appliquer les mêmes méthodes en Cisjordanie que celles que nous appliquons à Gaza.
En quelques mots, comment est-ce que vous liez ce concept de Nakba, ce mot de catastrophe en arabe qui décrit ce qui s'est passé en 1948 pour les Palestiniens, à ce concept que vous avez forgé, celui de futuricide? Comment l'un et l'autre doivent être articulés selon vous?
Je pense que effectivement cette Nakba, elle a été un temps vécue comme ça, j'imagine, comme une forme de futur impossible. Mais en même temps, il y a toujours eu après la Nakba, il y avait cette idée de retour qui est toujours là d'ailleurs. Donc je sais pas si on peut les lier parce que ça appartient pas à la même. La Nakba, c'est ce qui est vécu.
C'est vous qui le faites, c'est pour ça que je me permettais de
oui,
le dire.
Oui, je le fais, mais pas directement. C'est-à-dire que la Nakba, c'est ce qui est vécu par les personnes, le sentiment de catastrophe. Mm-hmm. Le futuricide, si on peut dire, c'est l'intentionnalité, en tout cas, du point de vue du gouvernement israélien, en fait. C'est un peu différent, l'intentionnalité de toucher tout ce qui pourrait permettre un avenir. Je veux dire, quand vous ciblez, parce qu'on a vu très clairement cibler les élites ou les professionnels gazaouis, on a vu très clairement cibler les enseignants, les universitaires, les médecins, les artistes. En fait, quelque part, on se dit que, on n'est pas dans une guerre entre l'armée israélienne et le Hamas. Enfin, ça paraît quand même assez évident. Donc, on est vraiment dans une guerre qui vise à empêcher, en tout cas, dans un avenir proche, puisque l'avenir lointain, on l'espère, apportera autre chose, mais dans un avenir proche, empêcher toute possibilité de vie dans cette à Gaza.
Alors à l'inverse, vous l'aviez dit, il n'y a pas aujourd'hui de fatalité. Heureusement, il y a peut-être encore un peu d'espoir. Comment empêcher ce futuricide d'être mis en place et surtout comment redonner par conséquent un avenir aux Gazaouis?
Écoutez, il y a plusieurs niveaux. Enfin, il y a le premier niveau, c'est évidemment le cessez-le-feu, et je pense qu'il est de la responsabilité de chaque pays aujourd'hui de tout faire pour aboutir à un cessez-le-feu et arrêter effectivement les livraisons d'armes à Israël. Je pense que le pays qui détient vraiment ça dans ses mains, ce sont les États-Unis. Mais les États-Unis finalement partagent quelque part une volonté commune en fait. Hein. On peut pas dire le contraire. Ils ont la possibilité d'arrêter ce futuricide et ils ne l'arrêtent pas. Bon, évidemment, ils sont en période électorale aujourd'hui, mais ils ne sont pas en période électorale depuis un an et je ne suis pas certaine que ça change par la suite. Donc, il y a ça d'un côté. Donc, il est évident que aujourd'hui, il faut absolument que tous les pays, que tout le monde, en fait, s'engage à arrêter ce gouvernement israélien qui, on le voit bien, s'emballe dans une sorte de folie destructrice, en fait, à l'échelle régionale. Et puisque ils ne peuvent pas s'arrêter tout seuls, je pense que tous les moyens doivent être mis pour les arrêter. Arrêter les livraisons d'armes, des opérations de boycott, etc. Je pense qu'aujourd'hui...
Le Hamas lui-même n'a aucun rôle à jouer dans les négociations pour participer, je dis bien participer, à arrêter ce futuricide.
Le Hamas a tout à fait un rôle à jouer, je suis complètement d'accord. Maintenant, le Hamas a accepté une proposition de cesser le feu il y a déjà quelques mois, qui avait été présentée comme une proposition israélienne, alors qu'en fait c'était une proposition, semble-t-il, américaine, que Netanyahou a décliné in fine, parce que maintenant il veut maintenir la présence israélienne dans le corridor de Nesnarim.
Et parce que la question de la libération des otages est au cœur des discussions.
Non, mais en fait, ce qui a changé la décision de Netanyahou, c'est le maintien de la présence dans le corridor de Netzarim et dans le corridor de Philadelphie. Parce que la question des otages, il y avait des accords tout à fait possibles avec libération de certains prisonniers, etc. Donc, le problème, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le problème, c'est la volonté du gouvernement israélien de se maintenir à Gaza, en fait. Et ce qui est évidemment pas acceptable. Maintenant, il s'agit pas du tout de dédouaner le Hamas de quoi que ce soit, loin s'en faut. Il a poussé à une destruction totale. Enfin, quelque part, il porte une responsabilité sur la destruction, évidemment. Aujourd'hui, par contre...
Enfin, quelque part, même, il porte une responsabilité.
Il porte une responsabilité. Oui, il porte une responsabilité. Ça ne fait aucun doute. Mais en tout cas, aujourd'hui, la responsabilité principale qui est portée sur ce futuricide, elle est sur le gouvernement israélien, c'est tout à fait clair. Et je voudrais quand même ajouter un élément, c'est que du côté politique palestinien, hein, parce qu'on parle beaucoup de ça, il y a aujourd'hui, et de longue date, hein, un consensus sur une volonté de refondation démocratique de l'OLP, avec aussi cette solution dite à deux États, que même le Hamas, en tout cas dans sa branche politique, et même le Hamas, a fini par accepter, je dis bien. Et donc, finalement, la solution politique, on la connaît depuis longtemps. En tout cas, la solution politique à moyen terme, on la connaît. C'est finalement, ce sont les frontières de 67. Or, Netanyahou n'a cessé de répéter qu'il ne voulait pas d'État palestinien. Et aujourd'hui, il bloque tout accord de cessez-le-feu sur le maintien dans la bande de Gaza. Donc, aujourd'hui, la question politique ne peut être résolue que par une pression sur le gouvernement israélien.
Merci à France Culture et à Stéphanie Latt-Abdallah, certainement une des plus éminentes historiennes de la question palestinienne. Historienne et politiste française, spécialisée sur le Moyen-Orient et les sociétés arabes, dont les recherches se situent au croisement de plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales, principalement histoire, sociologie et anthropologie. Merci encore. Merci pour votre attention. Nous vous disons à l'année prochaine. Très bonne fête à toutes et tous. À bientôt.
عيوننا لوزية حبك من قلبي.